croisée. Chers auditeurs de Forum Opéra et Cobuzz, bonjour. Aujourd'hui est l'anniversaire, somme toute anecdotique, me direz-vous, de ma toute première interview. C'était il y a 5 ans et Paul Agnew fut la première victime de mon inquisition. Qu'il ait accepté de nous rejoindre dans les studios de Cobuzz est donc une heureuse coïncidence. D'autant qu'il s'agit du musicien, puisqu'il est non seulement chanteur mais aussi chef, pour lequel j'éprouve le plus d'admiration cumulée. Paul Agnew, vous êtes originaire de Glasgow, et comme tout petit Britannique qui se respecte, vous avez commencé à chanter dans le rang des Trebles. Pas dans un college prestigieux, puisque vous êtes catholique, mais à Birmingham et Cardiff. Et vous adoriez cela. Après la mue, pourtant, vous vous êtes dirigé vers le théâtre, délaissant la musique pendant 3 ans. Et puis, durant votre dernière année d'études, vous rencontrez Geoffrey Skidmore, le fondateur de l'ensemble Ex Cathedra, qui vous révèle votre voix de ténor, en insistant surtout sur sa rareté. Grâce à lui, vous vous retrouvez à Oxford, mais une fois sorti de là, vous n'avez pas suffisamment confiance en vous, ni surtout en votre voix, et vous préférez servir le thé chez un producteur de concert. À force de voir, d'entendre les autres, vous décidez tout de même, au bout d'un an, de vous jeter à l'eau, et vous intégrez The Sixteen, le chœur de Harry Christophers, et malgré le très haut niveau de l'ensemble, vous ne pouvez pas vous défendre contre une certaine frustration. Par chance, une place se libère au Concert of Music, aux côtés donc d'Emma Kirkby, la grande prêtresse du chant baroque en Angleterre. Vous y restez 3 années, durant lesquelles vous approfondissez votre écoute, votre réactivité, votre compréhension profonde, intime du chant et de la musique. Vous vous y familiarisez aussi, protégé par le groupe, mais responsable, puisqu'à un par pupitre, avec la matérialité du métier de chanteur, les grandes salles, les tournées, les enregistrements. Vous êtes désormais prêt à embrasser la carrière de soliste. Et c'est à ce moment-là, et c'est formidable comme tout s'enchaîne dans votre parcours, que vous rencontrez William Christie. Rencontre avec votre destin, en somme, qui prend l'apparence de ce registre si rare qu'est celui de la haute contre à la française. C'est en 1992, ce sont les dernières représentations d'Attis, et vous auditionnez pour la musique de la Semaine Sainte de Charpentier. C'est à ce moment-là que vous devenez, si j'ose dire, français. La suite, on la connaît avec les arts florissants, bien sûr. Musique sacrée, beaucoup. Quelques grands succès à l'opéra, Rameau, Lully. Et puis vous êtes ailleurs aussi, à vrai dire un peu partout. Pilier de l'intégrale des cantates de Bach par Ton Koopman, mais aussi du Bach Pilgrimage de John Eliot Gardiner. Compagnon de route de Paul McCreech pour Bach, mais aussi Handel, et vous vous immiscez dans l'édition Vivaldi de Naïve. Nouvelle aventure en 2006, William Christie, que vous assistiez déjà pour le Jardin des Voix, vous confie ses arts florissants. Cela leur fait le plus grand bien, et ils en redemandent. Vous êtes désormais leur chef associé. Mais si vous êtes là aujourd'hui, c'est d'abord pour nous parler de votre nouveau disque en solo, entièrement consacré à Purcell et qui paraît chez Ambroisie. C'est une sorte de retour aux sources, à la quintessence de la musique anglaise.
Oui, et c'est un retour. Purcell était toujours présent, mais c'est un retour, oui, un compositeur que j'ai toujours adoré, mais bien sûr qui faisait partie de ma naissance dans la musique, si on peut dire. Ça veut dire qu'à l'âge de 7-8 ans, j'ai déjà chanté un peu de Purcell, et c'est pas difficile d'aimer. C'est une musique d'un tel charme, d'une telle profondeur, d'une telle expressivité. Donc oui, Purcell était toujours là, mais c'est à la fois une continuation d'un travail et une revisite à un compositeur préféré.
Une musique anglaise et pourtant si française, comme vous le soulignez dans le texte que vous avez écrit à 4 mains avec Anne-Marie Lasla.
C'est très intéressant de faire ce disque avec des musiciens français. et aussi d'avoir chanté beaucoup de rôles, particulièrement de Lully. Parce qu'il ne faut pas oublier que Purcell est né 3 ans avant la restitution de la monarchie en Angleterre. Et donc, avec cette restauration, il y a une floraison extraordinaire de la musique, du théâtre, de poésie, de tout, qui était quand même un peu découragé pendant le temps de Cromwell. Et donc, pendant ses premiers 20 ans, il a entendu énormément de musique. Mais comme quand Charles II est rentré de la France, il connaissait très bien le courant de Louis XIV. Et donc, son image d'un roi, son image d'un cours était celle de la France. Et donc, il se trouve sans opéra, sans orchestre, sans musicien. Il y a assez peu. On ne peut pas dire qu'il n'y a rien, mais il y a assez peu de musique. Et donc, il fait appel aux Français. On peut penser de Combert, qui a quand même créé l'Académie de musique ici en France, pendant le temps de Mazarin, la reine-mère. Et c'est lui, après que Lully est arrivé, qui vient en Angleterre et crée le premier Académie de musique. Et donc, il joue, bien sûr, sa propre musique, qui est une musique française. C'est lui, d'ailleurs, qui a écrit le premier opéra en France, Pomone. Il y a un goût pour les Français. Et c'est quand même une période quand il faut être, bien sûr, honnête à soi-même, mais en même temps, il y a un marché. Et si le roi dit « moi j'aimerais bien entendre une musique d'un tel style », c'est ce style-là qu'on adopte et pas d'autre. Donc c'est un mélange, parce qu'il y a bien sûr beaucoup d'influence ailleurs, il y a Pelham Humphrey, Locke et tous ses confrères. Mais en même temps, la musique qu'il a entendue autour de la cour était quasiment tout français. Et forcément avec les musiciens français. Donc de faire cette musique avec une connaissance de la musique française, mais aussi avec les musiciens français, qui étaient certainement présents à l'époque, à Londres, en Angleterre. Et on ne peut pas dire que c'est authentique, mais c'est fascinant. Ça donne un certain goût.
Sur ce disque, ce sont 3 femmes qui vous entourent. Oui. Vous avez dit faire ce disque avec des musiciens français, mais pourquoi les avez-vous choisies, elles en particulier ?
Oh, c'est un peu que moi j'étais choisi par elle parce que l'idée était celle d'Anne-Marie Laszlo au début. C'était elle qui voulait absolument faire un disque de Purcell avec cet anniversaire qui est arrivé, c'était l'opportunité. Donc j'étais un peu choisi par elle, mais pourquoi choisi ? Je sais pas, parce qu'ils sont des filles. Même s'ils sont tous les 3 les filles charmantes, parce qu'ils sont une équipe absolument fabuleuse. Anne-Marie a déjà fait beaucoup, beaucoup avec Blondine et beaucoup, beaucoup avec Liz, mais pas ensemble. Et Liz Kenny, c'est, je peux dire, le meilleur luthiste en Angleterre, de loin, à mon opinion, en ce moment. Donc, de réunir ces 3-là, Blondine très connue pour ses disques solos, pour ses récitals.
Blondine Ranou.
Oui, pardon, Blondine Ranou, tout à fait. Anne-Marie Laszlo, qui est fondamentale au succès de Continue de Les Airs Forissants, entre autres ensemble. Et Elizabeth Kenny, luthiste du premier degré, dont la musique aussi française qu'anglais, c'est une équipe de rêve. Pour vraiment aller le plus profondément possible dans cette musique, il faut un continuum qui est à tout moment capable d'une expressivité extraordinaire. Et là, j'ai la chance. C'est des Rolls-Royce de continuum.
Est-ce que quand on est anglais, quelle que soit la tessiture vocale, on doit quand même lutter contre le fantôme d'Alfred Deller quand on aborde cette musique ?
Moi, j'ai des disques d'Alfred Deller et j'appréciais beaucoup. Mais il faut dire qu'il n'y a presque pas une note de Purcell, ni de Dowland d'ailleurs, qui est écrite pour contre-ténor. Contre-ténor était un bois d'ensemble. Mais si on joue Purcell à un diapason correct, toutes les chansons, même Sound the Trumpet qui semble très très haut, des morceaux, ils sont pour les hautes contres et pas les contre-ténors. Et pour tout le monde qui ne sont pas peut-être avertis aux différences. Un autre contre, c'est un ténor qui chante avec un voix, avec une certaine aisance aux aigus. Mais ça n'a rien à voir, je ne peux pas dire ça trop, avec un contre-ténor qui chante avec un voix de falsettiste, donc qui est une voix de tête, et qui est une production complètement différente. J'appréciais énormément le travail d'Alfred Dallin. Et c'est un musicien de premier niveau et il est capable d'être extrêmement touchant. Et aussi, lui, il a créé effectivement une tradition que les contre-ténors chantent. Purcell et Dowland et Jones et tous les grands compositeurs des chansons de lutte anglais. Et on sait que d'ailleurs Dowland était un ténor et c'est presque tout pour ténor. Et si ce n'est pas pour ténor, c'est pour soprano. Donc les contre-ténors, bien sûr, ils sont forcés de transposer la musique pour que ça va. Et je n'ai rien contre ça non plus. En fait, je crois que pendant la période baroque, les gens ont eu un côté complètement pratique. Donc ça veut dire que s'il faut transposer, transpose, parce qu'on veut que ça sonne bien. Mais on ne peut pas dire qu'on a entendu beaucoup de contre-ténors. Ça n'existait presque pas du tout.
Nous écoutons un extrait de votre nouveau disque consacré à Purcell, donc « The Food of Love ». Et c'est le song « What a sad fate is mine ».
What a sad fate, what a sad, sad, what a sad fate is mine, my love is my crime. What a sad, sad, what a sad fate is mine. Oh, why should she be? Why should she be?
Entendre « What a sad fate is mine » de Purcell sur un ground douloureusement hypnotique, un disque ambroisie. Je le disais, vous étiez chanteur, vous l'êtes toujours, mais vous êtes aussi depuis 3 ans avec les Arts Florissants un chef, un vrai, Et n'ai-je pas dit à qui voulait l'entendre à quel point le concert que vous avez donné en juillet dernier à Beaune m'avait bouleversé? Vous en rêviez depuis longtemps de passer de l'autre côté du miroir en prenant comme ça de temps en temps la place de votre mentor?
Je crois qu'il y a deux choses. Une, c'était pas la première fois que j'ai dirigé, parce que j'ai eu un orchestre et un chœur à l'université à Oxford. Donc c'était pas complètement nouveau. Et c'était, oui, toujours là, un peu caché dans ma tête, qu'un jour j'aimerais bien faire ça. Mais aussi, comme soliste, on est obligé d'être interprète. Pas tout simplement en récital, quand bien sûr on est le seul responsable, mais aussi d'arriver pour n'importe quel opéra ou concert avec une certaine idée d'une interprétation, même si ça se négocie avec le chef pour trouver le meilleur voix, d'arriver sans aucune idée est hors de question. Il faut proposer. Donc, pendant toute ma carrière, il y a une certaine obligation d'être un interprète. Et donc, de bouger d'à côté de l'orchestre jusqu'à devant l'orchestre n'est pas de ce sens-là aussi difficile, parce qu'on prend plus de responsabilités pour l'interprétation. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux, parce qu'on peut avoir exactement l'interprétation de nos rêves, avec les contraintes de l'ensemble ou des gens avec qui on travaille. Est-ce que c'était toujours un rêve? Oui. J'ai pas imaginé que de faire ça. Maintenant, je veux continuer à chanter beaucoup, beaucoup. Mais c'était une invitation de William et ce n'était pas une invitation que je vais refuser. C'est quand même, ça fait 15 ans que je travaille avec les Arfoissons. C'est un ensemble que j'admire, que j'aime et que je connais très bien. Je connais tout le monde. Et donc, c'est de faire la musique entre amis. Et c'est un énorme plaisir. Il faut que je dise aussi que j'ai un énorme soutien des musiciens. Ils veulent aussi que ça soit un succès. Donc ça rend le travail plus facile pour moi.
Donc ils ont accepté tout de suite cet état de fait, ou il a fallu quand même les convaincre un peu que...
Je crois qu'ils étaient curieux, bien sûr, aux premières répétitions, en pensant, oui, d'accord, on se connaît très bien, mais c'est pas tout le monde qui peut diriger les orchestres, les chœurs, et aussi d'avoir une idée d'interprétation, aborde les chefs-d'œuvre de soit Vivaldi, soit Handel, soit Lotti, Monteverdi. Il faut se lancer, il faut avoir confiance dans les idées, et il faut avoir un gestique un peu clair. Et il faut sourire, il faut demander gentiment. Ça a toujours marché. Et oui, je crois qu'on a eu des bons succès. Je suis ravi que vous avez aimé cette concert à Beaune. C'était un projet passionnant pour moi et passionnant pour le cœur, je crois. Et je crois que aussi, malgré le fait que j'ai beaucoup travaillé avec Bill et avec les Arfoissons, mais j'ai beaucoup travaillé avec plein d'autres ensembles. Et donc, je ne suis pas un clone de Bill. Et d'ailleurs, Bill n'imagine pas ça. Et donc, forcément, ce n'est pas le même son quand moi je dirige que quand Bill dirige. Ce n'est pas les mêmes atmosphères, c'est certainement pas le même interprétation. J'admire énormément, bien sûr, c'est évident que j'admire énormément le travail de Bill, mais on n'est pas le même. Donc j'espère pour l'orchestre et pour le chœur aussi que la variété entre nous deux fournit quelque chose de nouveau et que ça remplisse un peu le travail de l'ensemble.
Vous allez donner à la Cité de la Musique le sixième livre de madrigaux de Monteverdi. C'est un répertoire que vous aviez beaucoup chanté, je crois, avec The Concert of Music. Dans quelle mesure est-ce qu'il faut diriger cette musique ?
Énormément et pas du tout. C'est une musique très particulière parce que, particulièrement le sixième livre, c'est à ce point de basculement entre ce qu'on s'appelle, il appelait lui-même, Monteverdi, la prima pratica et la seconda pratica. Donc ça veut dire, on laisse tomber la polyphonie et on prend l'expression du texte, qui est quand même le fondamental de l'art baroque, et de domination du texte surtout. Mais on a quand même un certain style d'écriture et surtout de façon que c'est imprimé. Et Monteverdi était capable d'écrire certains rythmes, mais certains rythmes n'étaient pas encore inventés. Donc il voulait absolument que ça soit parlé, que ça s'exprime naturellement, mais il a eu les contraintes de notation de l'époque. Donc, on pourrait parler comme ça, ou on pourrait parler comme ça. Mais c'est exactement ça le problème. Parce que quand on voit la musique sur la page, ça donne l'impression qu'il faut parler comme ça. Mais il faut le transformer en quelque chose qui vraiment qui parle. Et donc, dans ce cas-là, il y a un énorme travail de direction. Parce que pas tout simplement, il faut interpréter ce qui est sur la page. Mais bien sûr, il n'y a pas de piano, il n'y a pas de forte, il n'y a pas de tempo, il n'y a rien. Donc, de ce point de vue aussi, il faut plonger, il faut utiliser toute l'imagination possible, il faut être ouvert aux idées de tout le monde autre aussi, pour trouver quelque chose qui est quand même dramatique, parce que c'est la naissance de la musique dramatique. Mais entre le cinquième et sixième livre, on a Orfeo. Et ça, c'est une idée absolument extraordinaire, parce que on transforme la musique. Bien sûr, avec Peri, avec les Florentines, mais quand même, le meilleur compositeur de tous ces compositeurs est Monteverdi. Et c'est lui qui mène la musique dans une direction complètement révolutionnaire. On ne peut pas imaginer le Beatles sans avoir eu le sixième livre de Monteverdi. Et d'ailleurs, le sixième livre de Monteverdi est 100 fois plus dramatique que les chansons et harmoniquement plus intéressant. Donc oui, il y a une énorme responsabilité de direction. Mais puis, je chante pendant le concert. Et la dernière chose qu'on a besoin de voir, c'est quelqu'un fait des gestes pendant les madrigaux, parce qu'il faut voir tout le monde en train de s'exprimer en égalité. Il n'y a pas un mélodie et un accompagnement. Tout le monde a leur responsabilité. Et donc, j'essaie de ne pas faire des gestes. De temps en temps, un petit mouvement de tête. Et bien sûr, avec les yeux. Je dirige avec les yeux. Mais c'est passionnant. Et d'ailleurs, c'est un très grand plaisir de faire la musique de chambre, d'interpréter la musique de chambre de l'intérieur.
Est-ce que vous vous imaginez développer votre carrière de chef indépendamment des arts florissants?
J'espère qu'il y a une certaine inévitabilité. J'aimerais bien, autant que Bill veut, continuer à travailler avec les arts florissants, très particulièrement parce que c'est un énorme plaisir, et c'est de faire la musique entre amis. Et aussi, la réputation de les arts florissants est telle qu'on a des concerts pour un chef, on va dire, inconnu. Et il a des opportunités. Mais Bill est toujours un planning pour les prochains 10 ans avec les arts florissants. Et c'est pas quelqu'un qui cherche la retraite. Donc, ça fait pas une carrière toute seule. J'aimerais bien imaginer de continuer bien sûr, à chanter et de trouver un équilibre entre le chant et la direction, mais bien sûr, oui, de diriger ailleurs. Mais ça dépend si des gens s'intéressent ou si on trouve les bonnes productions. Je me trouve dans une très bonne situation. Si je ne dirige pas, je chante. Si je ne chante pas, je peux diriger. C'est super. Donc, je ne suis pas forcé d'essayer de trouver pour chaque semaine un orchestre à diriger. Je peux laisser aller les choses et on va voir où on arrive à la fin.
Ça fait plus de 15 ans, près de 20 ans même, que vous collaborez avec les arts florissants, qui eux-mêmes ont 30 ans cette année. Qu'est-ce qui fait votre attachement à cet ensemble, à cette famille?
Je crois que c'est leur qualité de base. Je crois qu'il y a un large de répertoire. Il y a une insistance sur une qualité. Et aussi, il y a un intérêt très profond, pas tout simplement dans l'histoire de la musique, dans la façon dont c'était fait à l'époque, mais aussi cette insistance sur le texte. Quand on entre sur scène comme chanteur, la dernière chose que Bill va dire, et il dit ça quasiment tous les soirées, c'est chanter pour convaincre. Cette musique est grande, et ça existe toujours, parce que c'était écrit par les génies. Mais il reste quand même pour nous une énorme responsabilité de convaincre le public de sa beauté, sans faire un cirque, mais avec le plus grand sincérité. Et c'est ça qui est fondamental aux arts florissants. C'est une détermination de qualité et une détermination avec le plus grande sincérité, de convaincre le public de la beauté de chaque répertoire qu'on aborde. Je n'ai pas besoin de défendre les arts florissants. c'est tellement évident quand on regarde les disques, quand on va à l'opéra, quand on va au concert. C'est ça les qualités qui marquent les impressions pour l'ensemble extraordinaire qu'il est.
Sur mon lecteur MP3 d'Île déserte, il y aurait votre interprétation de cet ensorcelant Larghetto, extrait du motet de Joseph Cassanea de Mondonville in Exitu Israël. Vous êtes accompagné par Les Arts Florissants, dirigé par William Christie, évidemment.
Thank you.
Paul Agnew interprétait Montes Exultaveront, extrait du motet In Exitu Israël de Mondonville, un disque paru chez le défunt label Erato. Le répertoire baroque français, c'est une langue, un style, une rhétorique éminemment spécifique. Comment en êtes-vous arrivé à devenir un des spécialistes incontestés de cette musique? Vous, un ténor anglais, avec toute la tradition que ça implique.
Ouais, je me demande moi-même. Je ne sais pas. Je crois qu'il y a deux choses. Je crois que j'ai trouvé tout de suite, et je crois que la première chose que j'ai fait, je faisais avec les enfants, c'était avec les enfants récents, c'était la Semaine Sainte de la musique, la Semaine Sainte de Charpentier. J'ai trouvé une sensibilité pour cette musique, que d'ailleurs j'adorais, et aussi la sensualité était quelque chose qui m'a touché énormément. Donc déjà, je crois qu'un truc très important, que moi j'adorais la musique, et donc j'ai voulu absolument de chanter de plus en plus. Et puis, j'ai eu des très grands professeurs. Par exemple, on a fait des grands motets de Rameau. Et là, on trouve les airs qui sont quasiment les airs d'opéra. En fait, je crois que Rameau ne voyait pas l'indifférence. Et un niveau d'expressivité, comme on entend là dans le Mondonville, qui est quand même une génération après. Mais une expressivité qui est au même temps dramatique, sensuelle, intime, extrovert. C'est un répertoire complètement extraordinaire, mais même à l'époque des motets de Rameau, je ne parlais pas un mot de français, moi. Je pouvais dire bonjour, au revoir et deux bières, s'il vous plaît, je crois. Mais pas beaucoup plus que ça. Mais c'était clair que j'ai trouvé une musique qui était un peu comme un gant. C'était pour moi. Et donc, après, c'était beaucoup de travail. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à lire. Bassi, Barra, Mondeclar. Beaucoup de choses à entendre. Un travail sur la langue, bien sûr. Je continue à faire, comme vous entendiez. Beaucoup de fautes, mais j'espère pas pendant les spectacles. Et je continue à travailler ça. Là, je dirige par exemple l'orchestre des jeunes baroques. Et là, à chaque fois que j'aborde un nouvel répertoire, cette fois-là, on va faire pas mal de Charpentier, par exemple. Il faut que moi, je retourne aux sources, je retourne aux manuscrits, mais je retourne aussi aux livres. Je relire la vie de Charpentier, je relire des choses qui sont écrites autour de Charpentier pour être sûr qu'on va dans la bonne direction. Et donc, cette éducation que j'ai abordée pour la première fois il y a 20 ans, continuez, ça va continuer.
Le répertoire français, c'est évidemment pas exclusif dans votre carrière, mais il y a quand même une de vos incursions qui, moi, m'a un peu surpris. C'est Vivaldi, en fait. Je ne vous imaginais pas chantant Vivaldi. C'est une manière de vous défouler, de vous libérer du dogme versaillais.
Non. je reste comme artiste ouvert à tout. Je vais dire tout de suite que je ne crois pas que je suis spécialiste en Vivaldi. Et aussi, les rôles de ténor en Vivaldi sont très bizarres parce qu'ils sont d'une gamme absolument gigantesque. Et souvent, les airs restent très baritonneux. Et puis, il y a les éclairs qui vont dans très haut, dans la stratosphère. Donc, c'est un répertoire que je trouve assez difficile, mais passionnant. Et j'ai été invité de le faire, j'ai regardé un peu la partition. Et comme c'est un projet passionnant de Naïf, et oui, je crois que les deux disques étaient avec Sardelli, qui est un chef florentin. Très intéressant, très un peu sauvage, mais un énorme spécialiste, un énorme enthousiaste de cet répertoire. Et j'ai déjà fait des concerts avec lui, on passé des très bons moments. J'ai pensé, bah, oui, on y va, pourquoi pas. C'est une des difficultés, je crois, d'enregistrer beaucoup, que bien sûr, il y a les traces qui restent. Et donc c'est très difficile d'aborder un répertoire. Et peut-être, je trouve, ouais, peut-être c'est un répertoire, ce n'est pas pour moi. Mais trop tard, parce que le disque est déjà fait. Donc, je ne peux pas dire que je suis le plus grand spécialiste de Vivaldi. Je crois qu'il y a des gens qui font mieux que moi. Mais c'était un plaisir et il faut tout essayer pour découvrir.
Vous avez participé à l'enregistrement d'un inédit de Vivaldi, retrouvé à la bibliothèque de Dresde et qui avait été attribué à tort à Baldassare Galuppi. Mais quand on entend ce Dominus Dextris Tuis, qui est la très fidèle parodie de l'aria Alma Oppressa de la fille d'un infa, la paternité du prêtre roux ne fait plus aucun doute. Vous venez d'entendre un extrait du Dixit Dominus de Vivaldi. Paul Agnew était accompagné par le Dresdner Instrumental Concert, dirigé par Peter Kopp, chez Archive. Cette diversification du répertoire dont on parlait interroge la notion même de spécialisation. Alors, un jour Rameau, le lendemain Bach, peut-être après une tournée Monteverdi, est-ce qu'on ne risque pas parfois de se retrouver confus dans tout ça?
On risque ça toujours. Oui, bien sûr, donc il faut se méfier contre. Oui, il faut remettre la tête, et comme je viens de dire, mais il faut se souvenir de tout ce qu'on a appris. Ce n'est pas tout simplement par regarder les notes. C'était d'ailleurs une idée il y a peut-être 30 ans, qu'on chantait tout le même. Donc c'est le Monteverdi, ça chantait le même que Mozart, ça chantait le même que Donizetti et Wagner. Et là, maintenant, on a des spécialistes. Et ce n'est pas assez d'être spécialiste baroque, parce que le baroque est énormément varié. Oui, on ne peut pas chanter Bach comme on chante Charpentier. Ça sera complètement idiot. Je ne sais pas d'ailleurs de faire un jour et le lendemain, mais de faire ça avec un peu plus de temps de réflexion. Mais aussi, oui, il faut changer la tête. Il faut se retrouver avec le bon atmosphère, les bonnes références intellectuelles d'abord, et puis musicales, pour aborder un tel répertoire. Ce n'est pas toujours simple, mais c'est possible. Moi, j'adore cette variété. Même si j'adore la musique française du 17e, 18e, je ne pourrais pas faire ça 12 mois par an. Il faut avoir de la variété, et donc de faire Purcell, et de faire Bach, et de faire Charpentier. C'est là où on trouve l'intérêt d'un carrière pareil. Mais c'est passionnant. Mais bien sûr, il faut se méfier de ne pas tout simplement chanter tout de même façon. Et j'espère que je ne fais pas ça. Le disque de Purcell, même s'il y a une influence française, je crois que ça ne sonne pas du tout comme le disque de les petits motets de Couperin et Campra, par exemple, qui est un monde à part, même si, en fait, c'était écrit quasiment au même moment.
Vous êtes aussi pédagogue avec le Jardin des Voix, avec l'orchestre baroque des jeunes. Comment est-ce qu'on enseigne, justement, aujourd'hui, cette notion des styles, de la variété? Quand on voit, par exemple, que Catherine Cessac évoque dans un article sur l'interprétation de la musique baroque entre hier et aujourd'hui, qui est publié dans le livre disque des 30 ans du Festival d'Ambronay, une certaine uniformisation, elle écrit, je la cite, « Si la musique baroque ne fut pas un phénomène de mode, son interprétation est en train de le devenir. » Comment est-ce qu'on incite les jeunes à chercher par eux-mêmes à remettre en question la parole un peu sacrée des aînés, des glorieux aînés? On peut s'interroger sur ce caractère expérimental de l'interprétation de la musique baroque. Est-ce qu'il existe encore?
Ouais, d'abord, je suis à 100% contre cette contestation. Je crois pas du tout pour une seconde que c'est la vérité. Quand on trouve un sort de style baroque qui va pour toute la musique. Moi, je n'ai jamais pensé ça. Mais c'est non plus mon expérience. Mais bien sûr, quand on parle de la musique, soit avec le Jardin des Voix, soit avec l'Orchestre des Jeunes, je parle beaucoup. Et d'ailleurs, j'arrive avec les textes pour parler de ça. On parle de différences d'instruments, même s'il faut tout chanter ou tout jouer avec les mêmes instruments. Et bien sûr, il y a un travail fondamental à faire. Je crois qu'il y a plutôt un problème de génération. Et encore, je crois que c'est une sorte de paresse, mais que nous, on a fait tout le travail et vous profitez de... tout simplement, ça ne va pas. Et d'ailleurs, bien sûr, pas tous les artistes vont arriver au premier niveau. Mais les artistes qui arrivent au premier niveau seront les artistes qui ne sont pas tout simplement doués musicalement, mais qui sont intelligents. Et s'ils sont intelligents, et bien sûr, il y a à regarder les sources. Et c'est orgueilleux même. Penser que la génération avant moi, on va dire, est exclusive à s'intéresser avec les sources. Et d'ailleurs, les sources sont énormément plus disponibles maintenant qu'ils étaient. On peut aller sur l'Internet et on peut charger Bassi, on peut charger des manuscrits de plein de compositeurs, on peut regarder exactement comme c'est écrit. Et aussi, on a bien sûr toutes les recherches de cette génération, qu'en lire. Et un des magnifiques livres, bien sûr, par Catherine, par tous les grands cerveaux de cette génération. Et donc, l'information est là, et bien sûr, on fait notre recherche. C'est intéressant, c'est quelque chose que j'essaie de faire avec le chœur et avec les petits ensembles vocaux, que les chanteurs, et même les instrumentistes, mais les chanteurs particulièrement, ont tendance à penser leur voix, et puis le texte, et puis l'histoire. Et si je peux faire quelque chose par rapport à l'interprétation de la musique, c'est-à-dire que si on trouve le contexte correct, si on comprend et on chante bien avec tout ce qu'on peut, le texte, la voix vient après. La voix est la dernière étape, et pas la première étape. Également pour les instruments, si on comprend pourquoi la musique était écrite, et pour qui, et dans quel espace c'était donné. Puis, on essaie de trouver une interprétation qui n'est pas révolutionnaire peut-être, mais qui est sincère, qui est en réflexion de voulions du compositeur. Puis, après, les instruments viennent avec, mais on ne peut pas jouer sans avoir eu tout ça. Donc, je rejette cette idée. Certainement, je trouve que ce n'est pas mon expérience, d'ailleurs. Et je trouve que la musique baroque est en très bonne forme. Merci.
Alors, il y a des chefs, justement, qui osent un peu secouer les certaines habitudes, hein, maintenant, qu'on peut avoir dans la musique baroque et des attentes que ça suscite. Il y a par exemple David Stern qui s'est mis à dos un peu les tenants de l'orthodoxie endelienne dans son enregistrement de GFT. En relisant l'air Open Thy Marble Jaws, O Tomb, comme un lamento sépulcral, alors que GFT, peut-être plus au premier degré, y exprime son désespoir avec une certaine rage, qui est notée par Handel con spirito, même si non allegro dans sa partition. Est-ce que le chant de Paul Agnew lui donne raison? On en juge maintenant.
Deepest moan from cause. Thank you.
C'était un extrait de Jephté de Handel par Paul Agnew et l'ensemble Opéra Fuoco, placé sous la direction de David Stern, un disque Arion Pierre Verani. Votre composition la plus inattendue, parce qu'elle tient presque du contre-emploi, c'est Platée, dans lequel ce rôle vous avez été immortalisé par un DVD et que vous allez reprendre pour la troisième fois au Palais Garnier, en alternance avec Jean-Paul Fouché-Court et avec une distribution sensiblement identique aux précédentes dans la mise en scène de Laurent Pelly. Quelle est la clé pour se réinventer à chaque reprise et même chaque soir?
Oh, ça c'était une grande question. Ça part pas tout simplement de Platée, mais ça part de toute la musique. Et comment on donne une telle quantité de Messie, par exemple, sans être systématique? C'est évident dans l'opéra qu'on est sur scène, donc c'est un spectacle. Mais chaque concert est un spectacle, chaque chanson est d'une façon un spectacle. Et il faut vivre ça dans une seconde, il faut réinventer la musique. On parle de ça aussi quand je travaille avec l'orchestre, mais c'est très évident quand on entend un chanteur ou un musicien qui sait qui va être la prochaine phrase, la prochaine note, parce qu'il le connaît par cœur. Et cette par cœur est très dangereux, et souvent très dangereux dans les récitals. Parce qu'on voit le chanteur en train de répéter quelque chose. Et il faut faire énormément d'attention de ne pas faire. Ce n'est pas très difficile en Platée, parce que c'est une œuvre d'une telle extériorité. Il faut l'inventer parce qu'on s'amuse sur scène, parce qu'on va toujours trouver des nouvelles choses. Mais dans les œuvres qui sont souvent données, oui, bien sûr, c'est une grande difficulté. Quand on entend Don Giovanni pour la dixième fois, il faut qu'on entende ça pour la première fois. Et donc, la responsabilité d'artiste, c'est d'inventer dans le seconde. Et d'être toujours conscient qu'on fait ça. Par exemple, dans le disque de Purcell, on a eu un problème avec le montage parce que on a décidé de faire le plus possible les très grandes parties de musique. Donc, on a fait des chansons en entier, et puis on a refait des chansons entières, Chaque fois, en essayant d'aller plus loin ou de faire des choses différentes, d'expérimenter, qui est quand même profondément partie de la musique baroque. Mais ça veut dire que pour le montage, on trouve que, par exemple, les tempi changent, mais ça c'est la musique live. Sans avoir cette idée de musique live, le disque sera mortel, sera mort. Et donc, même si ça posait quelques problèmes, que je crois qu'on a résolu, mais ça posait quelques problèmes, qu'on aimerait bien avoir ce parti-là et ce parti-là, mais ils ne se marient pas. Parce que l'atmosphère, on a essayé de faire quelque chose de différent à ce point-là, dans les deux prises. Mais il ne faut rien regretter de ça, parce que même si ça pose des problèmes, dans un montage qui est quand même quelque chose de complètement faux, c'est un plaisir toujours de faire les disques, parce qu'on a un résultat qui est vers le parfait, mais quand même ça pose des problèmes, parce que c'est quand même, ça reste quelque chose de statique. Chaque fois qu'on met le disque, c'est un copie digitale, l'effet est le même. Et ça, c'est impossible à imaginer dans un récital. Quand on va faire des récitals au Gaveau et ailleurs, et je ne peux pas imaginer qu'on fait le même du disque. En tout cas, je n'écoute pas le disque avant de le faire. Ça aide rien. C'est un problème aussi de façon dont les disques sont vus. Parce qu'un disque, c'est une carte postale d'un moment. Et c'est dommage qu'ils ne sont pas moins chers pour qu'on puisse l'acheter, écouter, jeter. Parce qu'ils ne sont pas des monuments. Ils ne peuvent pas être les monuments. Même Karajan, après avoir fini son 5e symphonie de Beethoven, dans la voiture, en rentrant à l'hôtel, il pensait bon, « je pourrais faire ça différemment maintenant ». Mais voilà, c'est l'interprétation, c'est fini, c'est devenu une interprétation iconique maintenant. C'est juste cet après-midi. C'est pas pour excuser les mauvais enregistrements, mais qui existent sans doute. Mais c'est aussi pour excuser les bons. C'est juste un clin d'œil sur un répertoire. C'est le caméra qui ouvre et ferme son aperture. Et voilà, on voit ça. Mais personne va dire, si voit un photo de toi à l'âge de 15 ans, voilà, c'est lui. C'est tout ce qu'il a dit pour lui. Ben non, parce qu'il y a tous les années après et tous les années avant. Toutes les opinions, tout le changement, tout le développement. Ben j'espère qu'il y a le plaisir. On prend plaisir dans les disques, on prend plaisir dans les enregistrements. Mais ils ne sont pas les icônes. Et c'est pas la vérité. Il n'y a pas de vérité. C'est pas quelqu'un. On peut pas dire, voilà, ça c'est l'enregistrement de cette œuvre. Mais non, parce que même cet artiste-là pourrait l'enregistrer complètement différemment le lendemain.
Pour terminer, la question rituelle de cette émission. Avez-vous déjà connu ce qu'on appelle l'état de grâce, ce sentiment qu'à un instant le monde vous appartient et que vous n'avez aucune limite?
Quelle drôle d'idée. Je crois que je peux dire non. Et d'ailleurs, je suis pas sûr que j'aimerais bien avoir cette sensation. Parce que malgré le fait, soit en chantant de Dowland, de Purcell, ou même se trouve sur scène au Garnier en train de chanter Platé, il y a toujours la technique sérieuse derrière qui est le côté professionnel, qui est le côté rigoureux. Et si ce n'est pas là, c'est tout de suite évident que ce n'est pas là. Et si je donne l'impression d'être perdu dans le moment, dans la beauté de la musique, ou perdu parce que c'est... parce qu'on se déchire sur scène, parce que c'est amusant, parce que c'est drôle. Mais toujours, la moitié de ma tête est basée sur qu'est-ce que je dis, où suis-je, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, et c'est quoi les problèmes du moment, du prochain moment. Donc, j'espère que je n'arrive jamais à un état qui n'est pas en contact avec ces bases-là. Non. Donc, non, je ne crois pas, non.
Paul Agnew, merci d'avoir accepté de vous confier au micro de Croisée. Votre nouveau récital consacré à Purcell est paru chez Ambroisie, un programme qu'on pourra entendre toujours avec Anne-Marie Lasla, Elisabeth Kenny et Blandine Ranou à la Salle Gaveau le 20 octobre et à l'église du Bouclier à Strasbourg le 22. Vous serez ensuite avec les Arts Florissants le 5 novembre au Trident à Cherbourg, le 7 à Paris, à la Cité de la Musique, pour le 6e livre de Madrigaux de Monteverdi, que vous dirigez et chantez. Et puis enfin, le Palais Garnier, pour la reprise de Platé, dirigée par Marc Minkowski, toujours, durant tout le mois de décembre, y compris le jour de Noël.
Oui.
Merci à Camille De Rijck, mon bien-aimé producteur, et à Guillaume Collet, qui nous enregistrait. Nous nous quittons avec un nouvel extrait de The Food of Love, votre nouveau récital. C'est Music for a While, l'incontournable, accompagné par Anne-Marie Lasla à la viole, Elisabeth Kenny au théorbe et Blandine Ranou au clavecin. Merci de nous être fidèles et à bientôt.
Thank you.